Vous écoutez
RMC.
Soyez toutes et tous les bienvenus. Vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix.
Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. Les pompiers cambriolés dans le Var. L'argent de la cagnotte des calendriers a été dérobé dans la ville d'hier. Vous entendrez leur colère. Un registre de condoléances mis en place ce matin à Saint-Tropez pour rendre hommage à Brigitte Bardot qui sera inhumée le 7 janvier prochain. Et la grippe qui gâche les fêtes pour certains. On constate, et vous l'entendrez, des hausses de passage aux urgences partout en France.
Qui s'en est pris aux pompiers du Var?
C'est l'indignation. Après le cambriolage de la caserne de pompiers dans la ville de Hyères, c'est près de Toulon. C'était hier, Célestin Bougère pour RMC. Les pompiers donc se sont fait dérober tout le bulletin de la vente de leur calendrier.
Eh oui, 140 000 euros ont disparu, de l'argent issu de dons qui étaient stockés dans un coffre-fort de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Hyères. Cette somme, vous l'avez dit, Quentin, correspond à la recette issue de la distribution annuelle des calendriers. C'est ce qu'indique le service départemental d'incendie et de secours du Var hier dans un communiqué. Le SDIS qui dit condamner avec la plus grande fermeté ces faits d'une gravité exceptionnelle. Michael Monnoir est membre du conseil d'administration de la Fédération des sapeurs-pompiers. Lui se dit profondément choqué ce matin.
Il s'agit de dons récoltés par nos sapeurs-pompiers au profit de nos orphelins ou de nos différentes actions de solidarité. C'est totalement intolérable. Nous sommes sans voix, nous sommes abasourdis devant une telle situation. Les sapeurs-pompiers, aujourd'hui, sont des cibles dans une société aujourd'hui qui, effectivement, est parfois très agressif, même vis-à-vis des sapeurs-pompiers.
Une enquête a donc été ouverte pour retrouver l'auteur des faits et comprendre comment une telle somme a pu être dérobée en plein milieu d'une caserne de pompiers. Une plainte a été déposée, les investigations ont, elles, été confiées au commissariat de Hyères.
Alors, un peu plus à l'est, à Saint-Tropez, c'est mercredi prochain, le 7 janvier, qu'auront lieu les obsèques de Brigitte Bardot. Au cours d'une cérémonie en toute intimité, comme l'explique Bruno Jacquelin, le directeur des relations publiques à la Fondation Brigitte Bardot.
Ses volontés étaient d'avoir une cérémonie simple, et je pense que cette cérémonie sera à l'image de ce qu'elle a souhaité. Ce sera une cérémonie privée, sur invitation. L'inhumation sera également privée et suivie d'un moment de partage où tous les Tropéziens et les admirateurs de Brigitte pourront se recueillir et intervenir.
Alors l'actrice reposera finalement au cimetière marin de Saint-Tropez qui donne sur la Méditerranée. Elle a visiblement changé d'avis durant les dernières années de sa vie puisqu'elle disait jusque-là vouloir être enterrée chez elle à la Madrague. En attendant, un registre de condoléances est donc mis en place ce matin pour lui rendre hommage à Saint-Tropez où vous êtes pour RMC, Pierre Bourgès.
Nicolas est venu se recueillir auprès de la statue de Brigitte Bardot et pour lui cet hommage est primordial.
Qu'il y ait un hommage sur Saint-Tropez, c'est fondamental. Elle est Saint-Tropez, elle incarne les 60 dernières années. Donc Saint-Tropez lui doit beaucoup. Et donc voilà, un hommage simple, mais chaleureux, c'est très bien.
Il essaiera d'être présent la semaine prochaine. Il suivra la cérémonie depuis l'extérieur de l'église sur deux grands écrans installés pour l'occasion, tout comme Marie-Elisabeth qui ne voulait absolument pas rater ça.
Et je suis contente de rentrer aujourd'hui parce que autrement je l'aurais raté. C'est un bel hommage. Pour moi, c'est un bel hommage.
Brigitte Bardot sera ensuite inhumée dans la plus stricte intimité au cimetière marin de Saint-Tropez. Une demande que comprend cette habitante.
C'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite être dans l'intimité, donc il faut respecter sa tranquillité.
Un hommage sobre qui ressemble à la star pour la plupart des Tropéziens, mais pour Estelle, c'est peut-être trop sobre.
C'est un peu faible. Pour moi, oui, c'est l'icône du siècle. Je pense qu'elle méritait un très grand hommage.
À partir d'aujourd'hui, il sera aussi possible de laisser un mot dans un registre de condoléances à la mairie.
Alors, vous savez que certains, comme Éric Ciotti de l'Union des Droites, veulent un hommage national pour l'actrice. Une pétition en ce sens a été lancée. Pétition qui recueille ce matin près de 20 000 signatures.
Il est 8h04 sur RMC et on découvre cet incroyable imbroglio administratif 4 jours après l'attaque de 3 femmes dans le métro de Paris.
Oui, puisque l'homme suspecté de les avoir poignardées au couteau était présenté jusque-là par le ministère de l'Intérieur comme un Malien en situation irrégulière sous OQTF. Eh bien, c'est en fait un Français, puisqu'il avait été naturalisé en 2018. Constance Bostone, vous avez des précisions donc sur cet imbroglio.
Oui, le ministère de l'Intérieur explique que l'homme n'a jamais fait valoir sa nationalité française. Pour Sema Hackman, avocate spécialisée en droit d'asile, seules 2 explications sont possibles à cet imbroglio administratif.
Soit ils ont procédé à une déchéance de nationalité et le mec n'est pas au courant. Soit ils se disent c'est un Malien, on fait pas trop le tri et ils ne font même pas gaffe au fait qu'il ait la nationalité française.
Pour l'heure, des vérifications sont en cours, mais selon cette avocate, le cas est loin d'être isolé.
Moi, je vois régulièrement des personnes qui ont un récépissé. D'accord, un récépissé en matière d'asile, c'est-à-dire que il y a un dossier à la préfecture et malgré ça, on met des OQTF de façon complètement aberrante et contre allégem à des individus et on se retrouve à aller devant le tribunal administratif.
Dans un rapport publié il y a un an, la Cour des comptes alertait déjà sur l'insuffisante interconnexion entre les fichiers d'information de l'État concernant les étrangers en situation irrégulière, ce qui empêche selon elle l'administration de disposer d'une vision complète du parcours de chacun sur le territoire.
Une enquête est ouverte à Paris après la mort vraisemblablement de froid d'un septuagénaire retrouvé sans vie sur un boulevard du 17e arrondissement de la capitale. C'était dimanche soir. Le plan grand froid venait d'être activé à Paris. Il l'est depuis hier dans le Rhône comme dans une quarantaine de départements en cette fin d'année. 10 000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle seront déployés demain. Rien qu'à Paris, hein, pour le réveillon du nouvel an, c'est autant que l'année dernière. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, fait passer d'ailleurs au préfet un message de fermeté.
Et cette année, c'est la grippe qui gâche la fête.
Oui, le pic de l'épidémie est attendu cette semaine. Toutes les régions constatent en ce moment une hausse des passages aux urgences. Nombre d'appels records au SAMU, nous dit Louis Salé.
À Rennes, le 15 croule sous les appels depuis ce week-end. Louis Soula, responsable dans le département et vice-président de SAMU Urgence de France, en a recensé davantage que pendant le Covid.
C'est la période que nous, on redoute. On sait que l'offre de soins n'est pas la même que celle du mois de novembre où tous les cabinets des médecins généralistes sont ouverts. Et malheureusement, en France, je trouve que on n'arrive pas à se préparer à ce genre d'afflux de patients.
Un manque d'anticipation constaté aussi dans les Bouches-du-Rhône où plus de 7% des passages aux urgences sont liés à la grippe. Kader Benayed est secrétaire départemental du syndicat Sud Santé.
Ce qui est malheureux, c'est que c'est chaque année que ça se passe. Très vite, on atteint un point de saturation. C'est-à-dire que je vous défie d'aller aux urgences aujourd'hui. Ben vous verrez qu'il y a des personnes qui attendent 8, 9, 10, 11, 12 heures pour pouvoir accéder à un soin. C'est pire que le Covid.
Son syndicat demande l'activation du plan blanc pour renforcer les effectifs. Dans ce département, une quinzaine de médecins ont déjà été réquisitionnés.
La fin des gobelets en plastique, eh bien ça attendra. On l'apprend ce matin, les gobelets jetables contenant du plastique ne seront pas interdits tout de suite. Cette interdiction était prévue pour le 1er janvier de l'année prochaine, 2026. Eh bien finalement, c'est repoussé de 4 ans, 2030. C'est publié ce matin au journal officiel. Le ministère de la Transition écologique invoque, je cite, une faisabilité technique. Le chantier de la 69 va-t-il se poursuivre entre Castres et Toulouse? C'est aujourd'hui, en principe, que la justice administrative doit dire si ce chantier contesté, vous le savez, doit continuer ou s'il doit à nouveau être interrompu. Le rapporteur public, dont l'avis est très suivi en la matière, recommande eh bien la poursuite des travaux. C'est le moment de faire le plein de carburant. Ça faisait 3 ans que les prix à la pompe n'avaient pas été aussi bas, aussi peu élevé plutôt. On est à en moyenne 1,59€ le litre de sans-plomb 95 en ce moment, 1,53€ pour le litre de gazole. Ça s'explique par le baril du pétrole qui est au plus bas, mais ça va remonter, on le sait déjà, au 1er janvier avec une hausse annoncée des taxes. Bref, c'est le moment de faire le plein. Les automobilistes bretons l'ont bien compris, nous dit Martin Langeanny Lévillaine pour RMC.
Pierre savoure la baisse du prix des carburants.
Bah, ça fait du bien. Après les fêtes, ça permet de se faire plaisir pour le jour de l'eau.
D'autant que pendant les vacances, les Français roulent. Philippe est venu voir son fils en Bretagne.
On habite dans l'Ain, alors ça fait quand même 800 km. C'est intéressant quand même, quoi. Sur un long trajet, c'est sûr. Hein.
Ceux qui ont repris le travail apprécient aussi. Olivier est paysagiste, il parcourt 60 000 km par an.
On arrive à faire des pleins de voitures à moins de 100 euros maintenant, donc c'est quand même pas mal pour des gens qui roulent beaucoup. À la fin de l'année, c'est pas négligeable.
Laurence aussi a fait ses calculs.
Je fais mon plein presque une fois par semaine, donc ça fait une économie réelle. Ça peut faire au moins entre 10 et 20 euros.
D'ailleurs, ils sont très nombreux à remplir leur réservoir à quelques jours de la nouvelle année, comme Michel.
Je me suis dépêché de venir faire un plein avant le 1er janvier. J'ai entendu que ça allait augmenter.
Car les pétroliers vont voir leurs taxes augmenter et vont répercuter ce surcoût sur les automobilistes. Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l'énergie.
Il est prévu qu'il y a une petite augmentation de quelques centimes. Cette taxe est destinée à limiter en quelque sorte la consommation de combustibles fossiles. Pour le reste, il n'y a pas de raison que le prix de l'essence augmente de manière considérable.
Une augmentation de 4 à 6 centimes selon les pétroliers français.
Savez-vous pourquoi les prix des places sont-ils aussi élevés pour la Coupe du Monde de foot l'année prochaine en Amérique et notamment aux États-Unis? Eh bien, c'est parce que la demande est forte. Alors on a le droit de pas y croire, mais c'est en tout cas la justification du président de la FIFA, Gianni Infantino, pour expliquer la politique tarifaire qui est pointée du doigt.
En 2 semaines, en 15 jours, nous avons reçu 150 millions de demandes de billets. Ça nous montre à quel point la Coupe du Monde est puissante. Et la FIFA est la seule organisation qui finance le football dans le monde. Le football existe grâce aux revenus que nous générons lors de la Coupe du Monde, de l'argent que nous réinvestissons, bien sûr, dans le monde entier.
the world.
Et alors, en attendant la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. En ce moment, vous la suivez sur RMC Radio Officielle. Le Sénégal, le Nigeria et la Tunisie, notamment, vont jouer aujourd'hui au lendemain de la qualification pour les huitièmes du Maroc, qui s'est rassuré en battant la Zambie 3-0 avec encore un ciseau acrobatique magnifique de l'attaquant El Kabi.
Merci beaucoup. C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC, 8h10. C'est l'heure de prendre le volant.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Alors écoutez bien, si vous êtes à l'écoute des RMC, on est le combien ? On est le 30, c'est ça ?
Oui.
Voilà, vous êtes un peu moins nombreux que les autres, vous allez entendre de bonnes affaires à faire avec Manu Le Chypre. Il est encore possible de bénéficier du leasing social pour acheter une voiture électrique ?
Alors, parenthèse, puisque vous dites que c'est le moment de faire des bonnes affaires, allez aussi dans vos concessions, si vous voulez acheter une nouvelle voiture. Il faut rappeler que c'est les trois derniers jours de l'année, où les commerciaux, ils sont morts de faim.
Ils fassent leurs chiffres.
Ah oui, il faut qu'ils fassent leurs chiffres. Et donc, allez aussi, si vous voulez, des voitures neuves, pas forcément électriques.
Mais dites que c'est Manu qui vous envoie.
Mais voilà. Mais il y a effectivement aussi ce leasing social. Le leasing social, c'est ce dispositif qui permet à des ménages modestes de passer à la voiture électrique via une location longue durée. Dispositif financé en partie par des aides publiques. Alors, dispositif qui avait été débordé par son succès l'an dernier. 90 000 demandes en 2024 alors qu'il y avait 20 000 voitures de disponibles. Ce dispositif avait été relancé le 30 septembre. Là, il y avait 50 000 voitures électriques qui étaient disponibles. Alors, rappelez-vous ce qu'on disait à l'époque. Hein. Précipitez-vous parce que en quelques jours, finalement, le quota va être atteint et vous n'aurez plus la possibilité d'avoir de voitures. Eh bien, pas du tout. Il y a 30 000 véhicules qui ont été commandés en une semaine. On a atteint la barre des 40 000 au bout de 3 semaines par rapport à la date initiale. Et alors après, la demande s'est effondrée au point qu'il reste encore aujourd'hui environ 1000 voitures disponibles.
Alors pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas le même succès que l'an dernier ?
Alors d'abord parce que la prime à accorder était évidemment moins généreuse, hein, le montant maximal.
Ah, ça joue.
Ah ben oui, ça joue beaucoup. Le montant maximal, il est passé de 13 000 à 7 000 euros. Ensuite, le coût réel de l'opération, ça a été suffisamment dit aussi, est plus élevé qu'indiqué. Hein. Rappelez-vous cette étude qu'on avait citée, l'étude de Léo Kerr, qui nous disait que le modèle le moins cher, la Fiat Panda, avec un prix de leasing affiché à 95 euros par mois, en fait, si vous ajoutiez tous les coûts, les frais d'entretien, l'assurance, etc., vous étiez plutôt autour de 170 euros par mois. Et puis, parce que les conditions restent assez restrictives, hein, il faut faire au moins 15 km pour aller au travail avec le véhicule ou rouler plus de 8000 km par an dans le cadre de son activité professionnelle.
Alors, à quelle marque est-ce que le dispositif a le plus profité ?
Aux marques françaises, beaucoup. Hein. Alors, Stellantis a reçu à elle seule 23 000 commandes sur les 49 000 enregistrées. Citroën, Peugeot, alors Fiat aussi, évidemment. Bon, vu le portefeuille de marque de Stellantis, c'est pas très étonnant, mais Renault a totalisé aussi 10 000 commandes. Les champions mondiaux de l'électrique ne boxaient pas dans la même catégorie parce que c'est des voitures plus chères, ils n'étaient pas concernés par ce dispositif, ce qui n'est pas un handicap pour elles et notamment pour les marques chinoises, puisqu'il faut rappeler, c'est quand même un événement que en 2025, BYD est devenu le premier vendeur mondial électrique, enfin de voitures électriques, devant Tesla.
Merci beaucoup, Manu Le Chypre. Et vous avez retenu. Hein. Allez, en concession aujourd'hui, vous avez un projet autour.
Non, mais allez-y, leasing.
Il reste 3 jours.
Concession, si vous avez un projet automobile, c'est avant le 31 décembre.
C'est maintenant. Merci beaucoup, Manu Le Chypre. On file au 32-16, retrouver Laurent, qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, Laurent.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu sur RMC ce matin, vous réagissez. Alors à 7h10 tout à l'heure, on était avec le président de la chambre de commerce du Gers, qui est aussi chambre d'agriculture, oui, sinon ce serait hors sujet, du Gers, qui est aussi membre de la coordination rurale, sur ce tracteur qui a vu, avec un agriculteur au volant, qui a vu 3 policiers le mettre en joue samedi lors d'une manifestation. Ça vous a interpellé, ça vous a fait réagir, Laurent? Est-ce que les policiers en ont fait un peu trop? Est-ce que vous comprenez les agriculteurs qui sont offusqués aujourd'hui?
Moi, je trouve que les policiers, ils n'en ont pas fait un peu trop. Déjà, quand la police demande à une personne de s'arrêter, on doit s'arrêter. Sinon, ça serait la débandade. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de refus d'obtempérer. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce qu'il dit. Parce que les agriculteurs, quand même, ils ont bloqué. Ça coûtait quand même 1 million d'euros à l'autoroute A64. Mmh. Et c'est pas les citoyens qu'il faut embêter. Moi aussi, monsieur, j'étais auto-entrepreneur pendant plus de 10 ans. J'ai arrêté il y a 1 an et demi parce que je suis tombé malade et puis le travail n'arrivait plus, les matériaux ont augmenté, tout ça. Mais c'est à l'État qu'il faut s'en prendre, c'est pas aux citoyens. Donc pourquoi ils s'en prennent pas à ceux qui à l'État, aux députés, au président de la République.
Plutôt que les blocages de route, vous voulez dire, Laurent?
Voilà. Là, ils ont emmerdé tous les pauvres citoyens qui partaient en vacances, les gens qui partaient au travail, ils ont été obligés de faire des détours.
Vous avez été directement, alors vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques, vous, Laurent, vous avez eu beaucoup de blocages, là, ces derniers jours pendant les fêtes?
Oui, effectivement, oui. Énormément de monde, parce que ils étaient obligés de faire des détours, tout ça. Donc, non, moi, je suis pas trop d'accord avec ce qu'ils disent les agriculteurs. D'autant plus, c'est bien beau, ils veulent qu'on leur achète leurs produits, mais quand ils vendent le chou-fleur à 5 euros le kilo, c'est normal que les gens, à l'heure actuelle, avec l'argent, les salaires qu'on gagne, c'est normal qu'on aille acheter des produits espagnols ou marocains. Hein, on n'est pas tous obligés d'acheter des produits français.
Laurent, merci beaucoup. La réponse à cette interview à 7h10 tout à l'heure avec l'agriculteur du Gers, président de la Chambre d'agriculture du Gers. Laurent, merci d'avoir réagi au 32-16 depuis les Pyrénées-Atlantiques en direct ce matin. Il est 8h15.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h16, à force, le temps passe à une vitesse. Martin Bourdin, des messages sur le WhatsApp RMC.
Et beaucoup de réactions, notamment à ces prix des carburants au plus bas depuis 3 ans. Bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils vont augmenter à partir du 1er janvier. Ces prix, bah, ils ne réjugent pas forcément Cribin qui nous écrit sur WhatsApp 0612 424 424. On a connu le gasoil à moins d'un euro. Maintenant, les gens sont euros à 1,60 ou 1,70. Je ne comprends pas. Incompréhension aussi pour Balda qui nous écrit sur WhatsApp. Je vis en Belgique. J'étais en France pour une semaine. 25 centimes de différence entre deux stations de la même marque. Deux stations totales. Incompréhensible, nous dit Balda. Et puis, on a Arnaud qui nous parle de la marge des distributeurs. Elle ne fait qu'augmenter, estime Arnaud sur WhatsApp. Il y a 10 jours, le litre était à 1,44€ dans une marque de grande distribution. C'était une opération à prix coûtant. Le lendemain, 1,56€. On se moque de nous, nous écrit Arnaud. En attendant donc la hausse prévue pour le 1er janvier. Ça ne vous fait pas forcément plaisir. Venez nous le dire ce matin au 32-16 et sur WhatsApp.
Eh oui, vous guettez les bonnes affaires en termes de carburant. Oui. Évidemment, tout le monde le fait. On va parler du prix de l'énergie. Carburant, mais pas seulement. Électricité, gaz aussi à 8h40 tout à l'heure. Dans un instant, 85% des Français qui jugent que 2025 a été une mauvaise année. Et ce ne sera pas beaucoup mieux en 2026, disent-ils. Bonjour Mathieu Doiret.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut Ipsos. Alors pourquoi sommes-nous aussi pessimistes? Pourquoi sommes-nous les plus pessimistes surtout? Vos réponses dans un instant sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
8h19 sur RMC, RMC Story. Bonjour Mathieu Doiret.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut Ipsos et vous révélez cette étude sur le pessimisme des Français. Et on se compare d'ailleurs avec nos voisins, avec le monde entier d'ailleurs. 85% des Français estiment que 2025 était une mauvaise année pour leur pays. Comme les Coréens. Sauf que les Sud-Coréens, ils ont quand même connu une tentative de coup d'État cette année. On est vraiment un pays de pessimistes.
Oui, bah ça c'est pas forcément nouveau. Ce qui est vraiment ce qui s'amplifie, c'est le décalage entre le jugement qu'ils portent sur l'année 2025 pour le pays en général et l'année qu'ils ont vécue eux-mêmes, de ce qu'ils nous disent en fait. Dans 55% des cas, ça a été plutôt une bonne année.
Oui, c'est intéressant. Donc, ce détail, il m'a bluffé moi. Dans 55% qui disent non, pour moi ça va, c'est pour le pays. C'est un paradoxe.
Oui,
ou c'est...
Oui, c'est pas un paradoxe nouveau, c'est quelque chose qu'on a observé depuis longtemps, mais en France c'est plus marqué qu'ailleurs, et c'est peut-être aussi en partie lié au fait qu'on vient d'entendre les nouvelles il y a pas longtemps, on vient d'entendre aussi les auditeurs, et c'est vrai que le flot de nouvelles il a pas été super en 2025, mais qu'objectivement en 2025 aussi en France il y a pas eu de catastrophe. Qui a eu un impact sur la vie quotidienne d'une grande majorité de Français.
Oui, alors Mathieu Doiret, justement, vous avez raison de le souligner. On a plein de messages sur le WhatsApp RMC 0612 424 424, Martin.
Et beaucoup d'auditeurs qui ne pensent pas être pessimistes, mais plutôt réalistes. Olivier, par exemple, qui nous dit « On est au bord de la récession, il n'y a rien qui va, ni dans les hôpitaux, ni dans la sécurité, ni dans les écoles, ni dans les lycées. » Qu'est-ce qui pourrait nous rendre optimistes? C'est aussi la question que se pose Keba sur WhatsApp 0612 424 424.
Oui, parce que Mathieu Doiret, quand on regarde les perspectives pour 2026, c'est pas enthousiasmant. Qu'est-ce qu'on souhaite? 41% se déclarent optimistes pour 2026 en France. C'est 30 points de moins que la moyenne mondiale.
Oui, et c'est vrai, si vous voulez, que on peut pas forcément dire que, encore une fois, que les nouvelles soient bonnes. Après, il faut dire aussi que là, l'année 2025, ça a été aussi aux yeux des gens une année de blocage complet au niveau politique, et que malgré tout, les Français, c'est quand même un pays où même quand on proteste beaucoup et même quand on se plaint beaucoup de la classe politique, où on suit la politique avec un peu d'intérêt. Et puis il y a une autre, chose aussi, c'est qu'il n'y a pas eu effectivement de raison de se réjouir particulière. Et c'est pour ça qu'on peut espérer en réalité pour 2026 des événements positifs, ne serait-ce que sur le plan du football. Et même là-dessus, pour le moment, les Français, mais ça c'est pas nouveau, c'était le cas en 98 et en 2018 aussi. Ils partent pas gagnants, alors que les Argentins, par exemple, ils sont persuadés qu'ils vont conserver leur titre. Ah oui. Mais peut-être que c'est une marrant. Manière de se... Bah oui, c'est peut-être une manière de se... de ne pas, en gros, de conjurer le sort pour se réserver une bonne surprise.
Oui, oui, parce que les fois où on était un peu confiants, on n'est pas rentrés les plus heureux. Bon, ce pessimisme, est-ce qu'il peut devenir un frein économique, un frein social, amoindrir la croissance? Je voyais que 56% des sondés anticipent même une récession pour 2026.
Bah oui et non. En réalité, par exemple, on a vu dans les derniers chiffres que la croissance économique était étonnamment bonne. Alors là où le sondage est quand même une confirmation d'ailleurs plutôt qu'autre chose, c'est que c'est pas la consommation des ménages là qui tirait la croissance. Et donc ça, c'est sûr que pour la consommation des ménages, il faudrait des signaux un peu plus positifs. Après, c'est pas non plus l'effondrement. Si on compare par exemple avec 2019. On voit qu'il y a moins de gens qui s'attendent à un mouvement type gilet jaune. Faut dire qu'en 2019, on en sortait. Ce qui montre que c'est pas non plus forcément la révolte, mais comme votre auditeur disait, je pense que c'est le manque de raison d'espérer, d'enthousiasme, de projets positifs.
Ah ouais, non, mais franchement, je donne quelques éléments de détail, hein, Mathieu Douaret, sécurité. 7 Français sur 10 anticipent des troubles à l'ordre public de grande échelle. 41% craignent une attaque terroriste importante. 46% considèrent que l'endroit où ils vivent sera moins sûr l'an prochain que cette année. Le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle. En fait, ce qui nous caractérise, quand je vous lis, c'est qu'on est un peuple qui a peur en l'avenir.
Ouais, c'est ça. C'est un peuple qui aime bien se faire peur, peut-être même. On pourrait dire, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'enfant qui crie avant d'être piqué par la piqûre du médecin. Mais il y a dans cela peut-être aussi l'idée que au moins on peut pas être déçu. Donc ça veut dire aussi que cet état d'esprit ne réserve que des bonnes surprises. Alors après, il y a une autre chose aussi. C'est par exemple, vous voyez, la sécurité, c'est un peu comme pour le bonheur collectif de la famille versus le pays. C'est qu'en fait, c'est pire pour le pays en général que même pour votre quartier, pour votre ville.
Oui.
Et ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup dans cette période d'élection municipale, qui est de dire ça marche pas en France, mais dans la ville, finalement, ça s'est pas mal passé au cours des 6 dernières années. Bon, c'est quelque chose en fait qui est important, c'est-à-dire que il y a une dépression collective qui est un peu créée quand même par le fait que tout le monde ressasse que ça va mal. Peut-être oui. Aussi, faudrait-il qu'on se mette tous à dire ce qui va bien.
Ben oui, oui, si tout le monde dit que ça va mal, je veux dire que ça va mal, alors que pour moi, ça va. Si je vous suis bien, Mathieu Douaret, c'est intéressant. Et puis au moins, si on anticipe le pire, on sera pas déçu. Je retiens aussi ça pour 2026. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Institut Ipsos. Cette étude sur l'optimisme, le pessimisme des Français, leur regard sur l'année passée et leur regard sur l'année à venir, c'est passionnant. Merci beaucoup, Mathieu Douaret. Vous continuez à réagir, si vous le souhaitez, au 3216 et sur le WhatsApp RMC. Il est 8h25. Et Arnaud Demange, vous le savez, a pris quelques jours de vacances, mais il est quand même présent avec nous ce matin. C'est le meilleur d'Arnaud Demange.
Arnaud, 4 nouvelles personnes suspectées d'avoir participé au braquage du Louvre ont été arrêtées.
Oui, mais on n'a toujours pas de nouvelles des bijoux. Non. Voilà. Et par contre, la présidente du Louvre a annoncé 20 nouvelles mesures pour mieux sécuriser le musée. Alors, première mesure, fermer à clé.
C'est vrai, c'est bien.
C'est pas mal. Deuxième mesure, ne pas mettre la clé sous le paillasson. Troisième mesure, des travaux. Vous avez vu, il y a une autre galerie qui a été fermée. Alors ça, c'est à cause de la vétusté du plancher des bureaux occupés par les salariés. Alors, heureusement, c'est des fonctionnaires, ils vont pas au bureau. Mais imaginez... imaginez un dingue. Pris d'un coup de folie un matin, tiens, j'irai bien bosser ce matin. Et là, alors l'architecte en chef du musée a déclaré, c'est bon, ça va pas s'effondrer. Et c'est rassurant, je trouve, qu'ils le disent comme ça, qu'ils soient là, oh ça va, si on marche pas bêtement dessus, ça risque rien. Par contre, il y a une mouche qui se pose, alors là, la moitié du Louvre sous la Seine, elle aura de la gueule, le radeau de la Méduse, comme ça. La galerie fermée en question, c'est la galerie Campana, qui habite une collection de céramique de la Grèce antique. Bon, c'est pas la plus visitée. Celle-là, ils peuvent carrément laisser les fenêtres ouvertes parce que l'assiette à soupe de Platon ou le compas en terre cuite de Pythagore ou le plateau à fromage d'Alain Duhamel.
Oh non,
tu...
oh non.
Tu risques pas de te les faire voler tout de suite, quoi. À part un prof d'histoire expert de la céramique au Péloponnèse en moins 5000.
C'est dur à dire Péloponnèse.
Ouais, c'est pas évident. Je suis fatigué. Mais il y en a qu'un en France de gars comme ça. Donc l'enquête sera vite bouclée. Bref, en termes de sécurité, ça laisse vraiment à désirer là-bas. Est-ce que vous avez vu? C'était quand même génial. Les deux Belges qui ont accroché leur portrait dans la salle de la Joconde. Il y a deux TikTokers belges qui sont venus. Ils ont rajouté un tableau. Deux Belges qui aiment se foutre de notre gueule. J'ai une piste. Je pense qu'Emmanuel Macron va recevoir un coup de fil dans pas longtemps. Allô, Emmanuel. Devine donc qui c'est.
Bonjour, Emmanuel. C'est le roi Philippe et la reine Mathilde.
Bonjour, j'avais reconnu. Excusez-moi, je suis en double appel avec Zelensky pour savoir s'il veut toujours mes rafales, parce que malheureusement, la paix s'approche. Oh, tu me feras toujours rire. Toi, tu vends tes avions à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Tu sais à qui tu me fais penser? Oh, la dame qui a cru épouser Brad Pitt. T'es un rigolo, évidemment. Hey, Emmanuel, t'as vu quand t'avais fait une blague? On t'a rajouté un tableau dans ton musée pourri. Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce que ça nous a fait rigoler? Et tu sais que c'est pas la première fois que je te fais le coup, hein. Quand je suis venu l'année dernière, tu sais, quand on s'est rencontré avec Bobonne, tu nous as fait visiter le centre Pompidou avec tes œuvres bizarres de bananes scotchées au mur et je ne sais quoi. Et à côté de l'urinoir de Duchamp, en fait, j'avais dessiné un zizi avec un feutre que j'avais appelé Portrait de Brigitte. J'ai rigolé.
Oh, Philippe! Arrête de colporter cette rumeur ridicule. Ça suffit maintenant.
Et tu sais quoi, Emmanuel? Il y est encore, hein. J'ai regardé, c'est coté à 300 000 balles, le machin. Pauvre Emmanuel.
8h28, Arnaud Demange, qu'on retrouve en direct la semaine prochaine, mais quand vous le souhaitez, en podcast sur RMC, rmc.fr, l'application RMC aussi. Tiens, notez bien, les carburants au plus bas, on le dit depuis tôt ce matin, mais les prix vont augmenter, et ça, dès la semaine prochaine. Les certificats d'économie d'énergie sont censés financer la transition énergétique. Ils sont de plus en plus critiqués, certains parlent d'une taxe déguisée. On va parler de votre facture, les carburants, le prix à la pompe bien sûr, mais la facture de gaz, d'électricité aussi, avec Thierry Brosse, qui est spécialiste des questions énergétique, c'est mon invité à 8h40.
RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une loi contre les mauvais payeurs au bénéfice des petites et moyennes entreprises. C'est l'ambition du gouvernement pour lutter contre les retards de paiement qui mettent en danger les petits patrons. 11 ans après la disparition du vol MH370 de la Malaisie Airlines, les recherches vont reprendre ce matin dans l'océan Indien et Donald Trump, très remonté contre Kiev, accusé par le Kremlin d'avoir visé une résidence de Vladimir Poutine.
La réponse du gouvernement à la fragilité des petites et moyennes entreprises.
Près de 20 000 seraient en danger chaque année. Pour certaines, c'est la conséquence d'une trésorerie mise à mal par des retards de paiement. Faire la chasse aux mauvais payeurs, c'est justement l'objectif de Serge Papin, le ministre des PME, qui va soutenir une proposition de loi contre le non-respect des délais de paiement. Bonne nouvelle pour ces petits patrons rencontrés à Lyon par notre correspondant Vincent Chevalier.
À la tête de plusieurs boulangeries pour les particuliers, mais aussi pour certaines entreprises comme des restaurants, Christophe Girardet a déjà eu affaire à des mauvais payeurs.
Il y en a un qui ne paye pas, 10 000 euros, c'est quand même pas rien. Multiplié par 2, 3, 4 clients, ça peut faire très très vite des grosses sommes.
Également trésorier de la Confédération des PME du Rhône, il connaît bien les conséquences importantes que peuvent avoir de tels retards.
Si on ne me paye pas en temps en heure, ça veut dire que moi, ça joue sur ma trésorerie et que je ne peux pas payer, encore une fois, mes salariés, mes fournisseurs, mon électricité, mon URSSAF, j'en passe et des meilleurs.
Le ministre veut durcir les sanctions contre les mauvais payeurs, mais peu d'entreprises osent vraiment s'attaquer à un client. Selon René Coirot, patron et président de la Fédération des travaux publics dans la région.
Non, c'est compliqué, d'autant que ça reste nos clients principaux, donc c'est pas facile d'attaquer nos clients. On attend quelque chose de l'État pour vraiment régler ce problème-là, mais ça devient urgent pour les paiements en tout cas. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, ça serait d'être payé, de nous payer les intérêts moratoires automatiquement. Ça serait déjà une belle avancée.
Malgré sa complexité administrative, la généralisation de la facturation électronique à partir de septembre 2026 pourrait déjà permettre de résoudre certains conflits.
À retenir également ce matin le report pour 4 ans de l'interdiction des gobelets jetables contenant du plastique. La mesure devait entrer en vigueur le 1er janvier, délai accordé par le gouvernement afin de laisser plus de temps aux industriels pour trouver une technique de faisabilité de gobelets sans plastique. Un espoir maintenant pour les familles des victimes du vol MH370 de la Malaysia Airlines, appareil censé relier Kuala Lumpur à Pékin, disparu des radars au-dessus de l'océan Indien en mars 2014. À son bord, 239 personnes. Parmi eux, 4 Français. Depuis, rien, aucune trace de l'appareil. Pas de corps, pas de débris. Les nouvelles recherches vont débuter ce matin. Lou Garnier, 11 ans après les faits.
Pendant 55 jours, l'entreprise Océan Infinity va passer au peigne fin 15 000 km² de fonds marins, l'équivalent de l'Île-de-France, au sud-est de l'océan Indien pour trouver des restes de l'avion. En 11 ans, c'est la quatrième campagne de recherche, mais jamais le matériel utilisé n'avait été aussi performant, selon Patrick Blély. Il est pilote à la retraite et suit l'affaire depuis 2014.
La qualité du bateau est vraiment top aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Équipé de 3 sous-marins, ça ressemble à des grosses torpilles orange. On peut descendre jusqu'à 6 mm, on peut le piloter sous l'eau, c'est autonome, ça a 100 heures d'autonomie et 2 robots qui pourront à la limite même descendre chercher des éléments aux bottes noires ou autre.
Surtout, la zone a été réduite par rapport aux précédentes campagnes. Alors pour lui, c'est un peu la recherche de la dernière chance.
Les points ont été améliorés, les calculs, les zones qui ont été précisées. Si on n'a pas trouvé là, après il faudrait fouiller tout le sud de l'océan Indien et là... Donc voilà, on a espoir que cette fois-ci, ce soit la bonne.
Et l'entreprise n'en est pas à son coup d'essai. En 2019, c'est elle qui a retrouvé la Minerve, un sous-marin français disparu en 1968 au large de Toulon.
Les négociations de paix pour l'Ukraine fragilisées à l'heure où les discussions semblent aller dans le bon sens, accusées par le Kremlin d'avoir, qui dit avoir intercepté une centaine de drones. Volodymyr Zelensky a démenti avoir ciblé l'une des résidences de Vladimir Poutine. Le président russe en aurait informé son homologue américain. Donald Trump le croit sur parole et fait part de sa colère, Grégoire Morelli.
C'est la résidence d'été de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, à près de 2000 km de la frontière ukrainienne, qui aurait été visée par ces drones. Mais pour le général François Chauvency, expert des questions de défense, rien ne prouve que l'Ukraine est à l'origine de cette attaque, ni qu'elle a vraiment eu lieu.
Tant qu'on n'a pas d'image, tant qu'on n'a pas de traces, il faut regarder ça avec circonspection. Si elle est fausse, ou même si elle est vraie, cette attaque, elle permet à la Russie de se dire « nous ne suivons pas actuellement le processus de négociation tel qu'il est conçu ». Ça a aussi pour effet d'influencer Donald Trump.
Donald Trump qui a vivement condamné cette attaque malgré l'absence de preuves de la Russie. Pour Ulrich Bouna, analyste géopolitique, cela illustre le crédit que donne le président américain au propos de Vladimir Poutine.
Il est relativement frappant que Donald Trump ait repris un peu le narratif russe. Et donc ça indique que... ce que dit Vladimir Poutine à Donald Trump, de façon générale, imprègne en quelque sorte Donald Trump. Il aurait pu s'adresser à ses services de renseignement avant d'en parler ou dire tout simplement « je vais me renseigner ».
L'Ukraine, de son côté, dénonce des déclarations dangereuses et accuse la Russie de vouloir saper les efforts diplomatiques en cours entre Kiev et Washington.
La Chine poursuit ses manœuvres militaires autour de Taïwan. Pour la deuxième journée de rang, Pékin a simulé un blocus des ports de l'île avec des tirs de munitions à réel. Et de fortes pluies attendues sur l'île de la Réunion. L'île est placée en vigilance orange ce mardi.
Et puis le soulagement du Maroc, qualifié pour les huitièmes de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations.
Devant leur public très critique jusque-là, le pays de la compétition n'a pas tremblé face à la Zambie. Victoire 3-0. Premier de leur groupe, les Lions de l'Atlas. Valide leur billet pour la suite, reboosté, nous dit l'attaquant marocain Elias Ben Seguir.
Oui, bien sûr, on est une équipe assez confiante, on sait de quoi on est capable, on est conscient de nos qualités. Bien sûr, chaque victoire donne un peu plus de confiance pour les matchs d'après. Donc on prend les matchs après match et on essaie d'être le plus performant possible. On a appliqué les consignes de Walid Regragui à la lettre, ce qui n'était pas chose faite les matchs précédents. Et avec un peu plus d'envie, je pense le sursaut d'orgueil du fait des critiques, et ça a donné ça.
Autre qualifié, le Mali et l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Sénégal tenteront de les rejoindre ce soir, ce sera à vivre sur RMC. Et puis tiens, puisqu'on parle de foot, un maillot Vermonte, logo cuivré, ce pourrait être l'un des maillots de l'équipe de France. À la prochaine Coupe du Monde nord-américaine, vous allez me dire pourquoi un maillot vert, bah c'est un hommage à la statue de la liberté, cadeau de la France aux États-Unis. C'est Footy Headlines qui le révèle et qui annonce une sortie prévue pour le mois de mars. Les Bleus seront dans le groupe du Sénégal et de la Norvège à la Coupe du Monde, à vivre sur RMC Radio officielle. Et puis la France contre 4 nouveaux citoyens, pas des moindres, puisqu'il s'agit de la famille Clounet, George, sa femme, Amal, et leurs 2 enfants résidant dans le plus beau département de France, le Var, du côté de Brignoles, Mathieu.
Je reste bluffé par cette autre info, le maillot vert.
Vous êtes resté bloqué.
Ah, mais maillot vert.
Un maillot vert, bah oui, c'est couleur statue de la liberté. pour vous donner une idée un petit peu de la couleur de ce maillot.
C'est nul.
Non, il est magnifique. Il est magnifique. Non, mais okay. Ce sera le troisième maillot.
On aura ce débat quand en temps voulu.
Demain,
je vais aller voir ça quand même. Merci beaucoup, Timothée Exer. C'était le journal de 8h30. Il est 8h38 et Jérôme est avec nous depuis les Pyrénées-Atlantiques à Pau. Bonjour. Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Vous êtes le deuxième à nous appeler des Pyrénées-Atlantiques sur ce qui s'est passé dans le Gers le week-end dernier. On est dans le sud-ouest, hein, la coordination rurale toujours mobilisée. Vous avez peut-être vu ces images de trois policiers qui mettent en joue un agriculteur au volant de son tracteur qui il demande de s'arrêter, de couper le contact en gros et de descendre et qui fait un mouvement de roue. On peut pas dire qu'il fonçait sur les policiers non plus, mais qui n'obtempère pas à proprement parler. Jérôme, ça vous a choqué ?
Alors, il y a plusieurs lectures. La première lecture, à être objectif, à partir du moment où il y a un refus d'obtempérer, il faut que la personne s'arrête. Point. Sur ça, on est tous d'accord. On va pas revenir, on peut pas demander pleurer sur Maël et puis de l'autre côté dire non, les agriculteurs, c'est normal. Non, tu t'arrêtes, point à la ligne. Par contre, moi, je pense que c'est plus compliqué que ça, Mathieu. C'est une perception qu'on a de la justice à l'heure d'aujourd'hui. Faible avec les forts et fort avec les faibles. C'est-à-dire qu'on aimerait voir ces images, par exemple, contre les dealers, contre les gens qui nous agressent dans la rue, contre la criminalité. Et on a l'impression que finalement, des gens lambda qui en ont juste ras-le-cul et ras-le-bol et qui expriment leur colère, eux, par contre, ouais. On peut les braquer.
Jérôme, vous allez pouvoir répondre, vous inquiétez pas. Mais je dis juste que sur les dealers, il y a quand même des opérations. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que la justice marche à merveille, qu'on a une réponse à toutes les problématiques de sécurité du pays. Mais c'est donner l'impression que les policiers ne font rien face aux forts, alors que bah, ils bossent quand même. Et en réalité, il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des arrestations, il y a des choses qui se font. Et puis, pour revenir au contexte des manifestations, Jérôme, j'ai envie de vous entendre là-dessus, on en a vu d'autres, des manifestations avec des oppositions aux forces de l'ordre manifestant. C'est pas la première fois, je veux dire. Elles sont dans le maintien de l'ordre. Il y a ce tracteur. Bon, est-ce que c'est si choquant qu'ils mettent en joue? Mais vous avez déjà répondu sur cet aspect-là, Jérôme.
Mais c'est comme je te dis, Mathieu, c'est une question de perception. À l'heure d'aujourd'hui, les gens sont convaincus, à tort ou à raison, je suis même pas en train de te dire que c'est vrai, qu'on est dans un espèce de laxisme judiciaire et le moindre chose, eux, ce qui les choque, c'est qu'en fait, ils se retrouvent à travers cet agriculteur qui, pour le coup, lui, défend, je veux dire, ses terres et son boulot. Et lui, on le braque. Et les gens ont la perception, à tort ou à raison, encore une fois, que de l'autre côté, le travail n'est pas fait. C'est juste une question de perception.
Mais vous n'avez pas tort sur l'analyse. Non, mais Jérôme, j'entends très, très bien, en plus, les précautions qui sont prises dans le discours, hein, à tort ou à raison. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et la perception générale, et c'est sans doute assez vrai quand on lit les commentaires qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux sous cette vidéo à Auch samedi. Merci mille fois, Jérôme. Merci beaucoup de cet appel dans les Pyrénées-Atlantiques ce matin. On nous appelle du sud-ouest parce que c'est là-bas que la mobilisation se poursuit. C'est là-bas que la coordination rurale est forte aussi. Est-ce qu'elle va se poursuivre encore? Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, il y a des mobilisations en Haute-Garonne. Merci Jérôme. Vous continuez sur ces sujets-là. On en parle tous les jours. Hein, des agriculteurs mobilisés. 3216 et le WhatsApp RMC pour être en direct avec nous. 8h41. Et c'est l'heure du choix de la rédaction. Bonjour Rachel Saadodine.
Bonjour Mathieu.
Alors c'est un métier encore peu connu, hein, celui de manager de centre-ville que le ministre des petites et moyennes entreprises pérenniser et professionnaliser. C'est ce que disait Serge Papin sur RMC le 7 novembre dernier. Rachel, vous êtes donc allée à Ernée, c'est en Mayenne, à la rencontre d'une manageuse de centre-ville.
De route de Laval, chef-lieu du département, le clocher arrondi de l'église d'Ernée se dessine au milieu des champs. Je retrouve Anaïs dans le centre-ville de la commune de 5000 habitants.
On commence le mardi matin par un petit tour de marché.
Bonjour Alice, ça va aujourd'hui?
Oui, je connais tous les commerçants. On a 90 commerces et artisans sur la commune d'Ernée. De l'habillement, de la déco, bijouterie.
Vous, depuis que vous êtes arrivée, vous avez participé à l'ouverture de combien de commerces?
Une dizaine de porteurs de projets, je pense.
On va pouvoir aller voir du coup commerce que vous avez aidé à ouvrir?
Oui, c'est une pâtisserie salon de thé qui a ouvert en septembre après un accompagnement de 8 mois entre les démarches de trouver le local, cerner le projet. Tout ça, ça ne se fait pas en 3 minutes. Donc voilà, on y va.
Tartelettes, chocolat, cacahuète, Paris-Brest, éclair au spéculoos. Cela faisait 3 ans que Léa voulait ouvrir sa pâtisserie. Un rêve devenu réalité grâce à sa rencontre avec Anaïs.
Je suis d'origine d'Ernée, donc je connais quelques commerçants par ici. Et en fait, on m'a conseillé Anaïs, donc j'ai pris contact avec elle. Et depuis l'ouverture, j'ai du monde et du passage tout le temps. Des clients qui commencent à être des clients même habitués. Beaucoup de commandes. Il y a des choses qu'on ne sait pas, donc ça a été un gros plus d'avoir Anaïs pour monter ce projet.
car la manageuse de centre-ville s'occupe non seulement de trouver le local en lien avec les propriétaires, les agents immobiliers, elle accompagne aussi les futurs commerçants dans leur démarche auprès des banques et avec l'appui de la mairie, les projets se concrétisent beaucoup plus facilement.
Mais alors, est-ce que ça veut dire, Rachel, que tous les projets, tous les commerces se portent bien à Ernée ? La ville ne connaît pas la crise, Rachel ?
Eh bien, cela fait quand même plus de 10 ans que la commune emploie des managers de centre-ville, donc ça va plutôt bien sur les 95 cellules commerciales. Seules 5 sont actuellement vides. Soulignons que c'est bien en dessous du taux de vacance moyen observé à l'échelle nationale, 11% en 2024, d'après une étude de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires publiée au début du mois.
Mais alors, on peut dire que le métier de manager centre-ville a fait ses preuves, que ça fonctionne ?
Oui, mais encore faut-il y avoir accès. Cédric Zabot est le directeur de l'Association des maires ruraux de France. Il salue l'idée, mais reproche à l'État de ne pas avoir réfléchi à une manière d'adapter la profession de manager de centre-ville aux communes rurales.
Ce que constatent nos adhérents de notre réseau, c'est qu'ils n'ont pas tous nécessairement la capacité financière, soutenir les velléités des élus locaux et ruraux à créer ou maintenir du commerce en milieu rural suppose de débloquer des fonds, des ressources qui permettent aujourd'hui de penser la question du commerce rural de manière coordonnée avec le maximum de communes dans un périmètre donné.
Cédric Zabot propose par exemple de créer des postes de manager de centre-ville itinérants partagés entre plusieurs villages, financés pourquoi pas par des communautés de communes.
Merci Rachel Saadodine. Alors on quitte le centre-ville, on va à la périphérie des villes et des bourgs pour aller faire le plein. On passe à la pompe à présent avec des prix en baisse, des prix au plus bas depuis 4 ans. Mais alors attention, ça ne va pas durer. On va vous parler dans un instant des certificats d'économie d'énergie. Véritable outil écolo ou nouvelle taxe déguisée sur la facture des Français. Bonjour Thierry Brosse.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions énergétiques. À quoi servent ces certificats? Pourquoi est-ce qu'ils vont faire augmenter nos factures? On va parler du prix du carburant, mais aussi de l'électricité et du gaz. C'est avec vous dans une minute. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h48 sur RMC, RMC Story. On parle de votre facture énergétique avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Ce matin, on va essayer de ne pas se faire avoir par l'arbre qui cache la forêt. Quand même, d'abord, les prix des carburants au plus bas en ce moment, ça fait du bien, reconnaissez-le. Mais une facture énergétique, le carburant, mais aussi l'électricité, le gaz, tout va augmenter bientôt, très bientôt, on en parle. Bonjour Thierry Brosse.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des questions énergétiques. Alors ce point positif, le prix des carburants au plus bas depuis 3 ans, à la mi-décembre, il y a eu une très légère remontée sur le dernier indicateur. Hier soir, il a pris 3 centimes, mais en gros, on a 1,59 autour dans ces eaux-là pour le sans-plomb 95, 1,52 pour le gazole. Pourquoi les prix des carburants sont aujourd'hui si bas ?
Parce que dans votre plein, vous avez 55% qui sont des taxes, on reviendra sur ça, et 45% qui sont la matière première. Et la matière première du carburant, c'est le pétrole, le Brent. Et depuis le début de l'année, il a fortement baissé. En fait, Trump, lorsqu'il est élu à la Maison Blanche en janvier, demande aux pays exportateurs de pétrole d'augmenter leur production pour faire baisser les prix, puisqu'un président américain a besoin, pour sa cote de popularité, d'avoir des prix bas à la pompe, puisque les prix à la pompe, c'est quand même un déclencheur aux États-Unis. Et l'OPEP, finalement, décide de le faire, petit à petit va rajouter de la production, les prix ont baissé, il faut bien se rendre compte qu'ils ont baissé de 80 à 60 dollars par baril, c'est grosso modo une perte pour l'OPEP de 0,5 milliard de dollars par jour. C'est-à-dire, en ce que l'OPEP gagnait en janvier et ce qu'elle gagne aujourd'hui,
un demi-milliard
de dollars de moins par jour. Donc elle fait un gros effort pour plaire à Trump. Alors ça a d'autres avantages diplomatiques, mais cette baisse que vous constatez à la pompe, elle est liée d'abord à la baisse du Brent. Deuxièmement, elle est aussi liée à la baisse du dollar par rapport à l'euro, puisque l'euro s'est renchéri de plus de 10%. Et donc ces deux éléments-là font qu'aujourd'hui, le pétrole en matière première, en prix du baril, c'est finalement pas cher.
Et puis je voyais aussi que ces dernières semaines, parce que c'est les fêtes, il y a eu des opérations très agressives dans la grande distribution qui ont peut-être tiré les prix vers le bas, en tout cas pour la moyenne. Je voyais aussi un ralentissement de l'activité industrielle, moins d'activité, c'est moins de demande de carburant. Et là, c'est une mauvaise nouvelle qui est cachée par les prix intéressants.
Oui, alors il faut bien se rendre compte que le prix du pétrole est un prix mondial et que la demande de pétrole, elle ne faiblit pas. Elle est un peu plus basse que ce qu'on pensait, mais elle est toujours en croissance par rapport à l'année dernière. On croit de l'ordre de 1% par an pour la demande de pétrole dans le monde.
Alors, le problème, c'est que ça ne va pas durer. Les taxes qui vont augmenter sur les énergéticiens, en fait, au 1er janvier, on en a parlé dès hier avec Emmanuel Lechypre, les certificats d'économie d'énergie, les CEE, qui sont censés aider à financer la transition, vont augmenter. C'est des taxes que, enfin, taxes, je mets des guillemets sur le mot, les producteurs, les distributeurs vont répercuter ces certificats d'économie d'énergie sur le prix final. On va en parler en détail, mais d'abord d'un mot, je voyais que c'était 4 à 6 centimes par litre à partir de la semaine prochaine sur le carburant. Ça représente quoi pour un Français moyen ?
Si on regarde ça de façon générale, vous avez évoqué, l'État a décidé d'augmenter ses certificats d'économie d'énergie, on les passe de 6 à plus de 8 milliards. Hein. Donc effectivement, ça veut dire que nous, France, nous allons payer 8 milliards pour ces certificats d'économie d'énergie. Ça se divise à peu près en deux, la moitié pour les résidentiels et puis l'autre moitié pour les industriels. Donc ça veut dire que nous, Français, allons payer 4 milliards. Et ensuite, si vous le divisez par nombre de foyers et si vous regardez pour les énergies, ça fait à peu près quelque chose comme 75 euros pour votre carburant sur l'année et le reste, c'est-à-dire 65 euros pour votre facture gaz et électricité. Donc voilà,
c'est pas rien.
C'est pas rien et vous avez raison d'utiliser le terme quasi-taxe parce que c'est pire qu'une taxe puisque c'est quelque chose qui est voté de façon qui n'est pas voté, qui est décidé de façon réglementaire sans que le Parlement ait son mot à dire. Et donc vous voyez que je ne suis pas sûr que les Français soient d'accord qu'on augmente leur taxe ou leur quasi-taxe de 50 euros, puisque c'est l'augmentation que l'on va avoir en 2026.
Parce que le politique vous répondra qu'en théorie, les fournisseurs ne sont pas obligés de répercuter ce certificat d'économie d'énergie sur les prix.
Oui, mais ça, c'est que en théorie, et ce n'est pas du tout. Voilà, mais la marge, les politiques veulent aussi réindustrialiser la France et l'autre moitié de ces certificats d'économie d'énergie seront portés par des industriels qui vont aussi devoir le répercuter à leurs clients finaux.
Est-ce que ça marche au moins ? Parce que ces certificats d'économie d'énergie doivent servir à financer des travaux de rénovation énergétique. Quand on voit les galères dont on a pu parler sur MaPrimeRénov', par exemple, c'est quand même compliqué, je me dis, pour le contribuable de comprendre où va cet argent qui est censé financer des travaux.
Oui, mais parce que l'État nounou veut s'occuper de tout. Donc effectivement, demander à des industriels qui vous vendent de l'énergie de mettre une taxe ou une quasi-taxe pour vous en vendre moins, c'est un peu stupide. Et donc en plus, comment est-ce que cette taxe est calculée ? C'est une usine à gaz, puisqu'on essaye de regarder les économies de térawattheures qui seront générées sur le long terme. Et puis, il faut bien se rendre compte, la grande question c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi le marché ne le fait pas ? Parce que finalement, si le marché le faisait, la solution aurait été très simple. Le marché ne le fait pas, c'est-à-dire votre isolation de votre maison, parce que ce n'est pas rentable. C'est-à-dire que les Français sont plus intelligents que les politiques. Les Français se disent, bien, je ne vais pas faire ça parce que la rentabilité de cet investissement, c'est 30, 40, 50 ans. Et donc, je vais attendre. Et pour forcer les Français à faire quelque chose que le marché ne veut pas faire, le politique s'en mêle et vous invente une quasi-taxe.
Les usines à gaz sont, jeu de mots, beaucoup de messages ce matin sur le prix des carburants, notamment, mais aussi des messages qui viennent remettre un petit peu en question les baisses insuffisantes, je crois, Marc.
Ouais, exactement. Tommy, ça me fait rire qu'on se réjouisse que le prix de l'essence est aujourd'hui à 1,55 le litre. Ce tarif reste encore très élevé malgré le prix du baril au plus bas. C'est le gouvernement qui se gave en taxe, un peu ce que vous disiez. Le prix devrait être à 1,20 en moyenne. Voilà ce que nous écrit Tommy. Et c'est pas le seul à tenir ce genre de discours sur WhatsApp ce matin.
Alors moi, j'ai regardé aussi Thierry Brosse. 1,55-56 le litre de samplon 95. 1,49-50 pour le gazole. C'est le mois de novembre 2019. Déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Donc on dit qu'il est très très bas en ce moment, mais on a déjà bloqué le pays pour un carburant à ce prix-là.
Et oui, mais l'État doit absolument récupérer des taxes diverses et variées. Et donc l'énergie, c'est un bon moyen. Encore une fois, sur le pétrole, ça passe. Et il faut bien se rendre compte que dans la transition écologique, l'État demandera des taxes, inventera des taxes sur les énergies décarbonées aussi.
Merci beaucoup Thierry Brosse, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des questions énergétiques. C'est votre facture, c'est l'essence, le diesel bien sûr, c'est aussi l'électricité et le gaz. Je voulais qu'on en parle ce matin, merci. Mille fois. Alain Marchal est là, mais il est déjà l'heure de vous passer la main. Les GG débarquent, ça va Alain ?
Les GG débarquent, bonjour à tous, avec Fatih Balibou, la prof de français, avec Didier Giraud, l'agriculteur, avec Antoine Dier, ce consultant auprès des entreprises. Et il ne manquera que vous au 32-16, bien évidemment, pendant ces 3 heures de grande gueule.
Allez, moi je reviens demain dès 7h, Martin, dès 5h. Très bonne journée sur RMC avec les GG.
RMC, Apolline Matin.